Bonjour à tous et merci de nous retrouver ici au Conseil d'État pour ces nouvelles rencontres des acteurs publics. Alors le thème de ces rencontres, vous le connaissez, c'est l'évaluation des politiques publiques. Et pour en parler, qui de mieux que le patron du principal organisme d'évaluation des politiques publiques en France, Gilles de Marjorie, bonjour. Vous êtes du coup, comme je disais, le commissaire général de France Stratégie, l'organisme de prospective et d'évaluation qui est rattaché à Matignon. Alors pour commencer, en ces temps de crise sanitaire, de perte un peu de confiance dans les institutions, dans l'action publique, quel rôle peuvent avoir et doivent avoir les évaluateurs selon vous? Est-ce que c'est de rendre plus transparent l'action publique?
Alors, c'est un point absolument fondamental, cette transparence de l'action publique. Nous ne sommes pas spécialisés du tout dans les questions sanitaires. Mais nous intervenons très activement dans ce qui est en train de se passer, puisqu'avec l'inspection des finances, nous assurons le secrétariat d'un comité que préside Benoît Queré, qui fait le suivi et qui fera l'évaluation du plan de soutien aux entreprises qui a été mis en place dès le confinement et qui comprend les prêts garantis par l'État, l'aide à l'activité partielle et toute une série d'autres dispositifs que nous suivons. Et vous pouvez trouver sur notre site les dernières données à jour sur tous ces dispositifs. Et donc c'est un domaine dans lequel tout citoyen qui veut s'intéresser à ce qui se passe, qui veut savoir combien a été engagé dans ces différents dispositifs, dans quelle région, à qui ça a bénéficié, peut aller sur notre site et y trouve toutes les données. Et ça, ça fait partie des mesures qui permettent de créer la confiance, et je crois que c'est extrêmement important.
D'accord. Donc ça, c'est fait au fil de l'eau ou c'est des rapports qui vont être faits à intervalles?
Là, sur le suivi de ce plan, on tient les données à jour pratiquement hebdomadairement sur certains éléments. Et donc, vous trouvez des journées extrêmement fraîches et nous remettrons un rapport à la fin de l'hiver au Premier ministre qui sera rendu public. Plus exactement, Benoît Queré remettra un rapport et ce rapport sera évidemment lui aussi rendu public. Et donc, à la fois les éléments chiffrés dont on dispose et les conclusions auxquelles aboutira la mission sont publics.
Alors, vous, comme je disais, vous dirigez France Stratégie. Dans son étude annuelle, le Conseil d'État mettait en avant encore peut-être une trop faible appropriation des enjeux de l'évaluation par les acteurs publics. France Stratégie lui-même, vous avez passé au crible les pratiques d'évaluation de différents pays, de 6 pays dans la France. Est-ce que vous diriez encore que la France est en retard par rapport à ces pays? Il y a l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, le Canada par exemple.
Alors, il y a quelques années, nous avions fait un exercice qui consistait à essayer de mesurer combien on faisait d'évaluation de politique publique à partir d'un indicateur qui était les articles scientifiques publiés dans des revues scientifiques, donc les choses qui tiennent pour valables et solides dans ce milieu-là. Et ce qui était très clair, c'est que la France avait démarré avec retard et qu'elle était en train de rattraper son retard. On est quantitativement un peu en deçà d'autres, mais ce n'est pas une différence gigantesque. Ce qui est très important et qui me frappe beaucoup à la tête de France Stratégie, c'est que l'intérêt public pour ça s'est énormément accru. Et quand nous sortons une évaluation, nous savons que nous sommes lus, que nous sommes entendus. Ceci est absolument déterminant pour le succès. C'est-à-dire que les évaluations de politique publique, ça se développe quand les gens s'y intéressent et quand ils sont prêts à y consacrer du temps et quand ils sont prêts à faire quelque chose. Et là, je dirais que la France est en train de changer. On est dans une phase où il se fait des évaluations de politique publique assez importantes. Elles sont accessibles. Leurs méthodes sont de plus en plus rodées, solides. Et il y a au fond guère de contestation sur la manière dont elles sont faites. Et ce qu'il faut, c'est simplement que ça s'installe et que ça fasse partie vraiment du débat de tous les jours et que ça soit pris en compte au moment de l'élaboration des politiques publiques. Parce qu'on les fait pour pouvoir ensuite faire de meilleures évaluations, de meilleures politiques publiques.
Dans l'analyse des différents pays, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des enseignements que vous tirez, oui, que vous essayez de vous approprier pour France Stratégie?
Alors, au fond, ce qui est très intéressant, c'est que tous les pays que nous avons étudiés ont chacun une organisation singulière. Il n'y en a pas deux pareils sur qui fait quoi. Mais il y a des bonnes pratiques dont on peut s'inspirer un peu partout. Et c'est ça qu'on a mis en avant dans nos rapports sur les évaluations de politique publique dans les 6 pays que nous avons étudiés. Et ces bonnes pratiques, ça peut être d'avoir plus d'universitaires qui viennent faire des évaluations dans les murs des politiques publiques. Ça peut être d'avoir des guides de méthode qui sont très employés. Par exemple, les Britanniques ont fait ça très, très bien. Ils ont des guides que tout le monde utilise. Ça peut être d'avoir dans la formation des fonctionnaires un module d'évaluation des politiques publiques qui est obligatoire et qui fait partie des bases. Donc, c'est plein de choses. Ce ne sont pas des grandes réformes institutionnelles nécessairement, mais c'est l'installation d'une culture de l'évaluation partagée qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui trouvent ça naturel et qui, quand ils commencent à travailler sur une politique publique, s'intéressent à sa future évaluation ou qui tiennent compte des évaluations sur ce qui existe déjà.
C'est ce que j'allais dire, vous avez employé le mot. Là, dans les pays en question, il y avait les États-Unis, le Canada,
la Suède, l'Allemagne.
C'est des pays de culture anglo-saxonne. Est-ce que la France, elle est là, c'est moins naturel chez nous ?
Alors, c'est une bonne question, parce qu'il y a des questions culturelles très, très profondes. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce que nous faisons, nous ne rencontrons pas d'obstacles institutionnels. Alors, il y a des singularités. La France est un pays qui est plus défiant que la moyenne. Et quand on dit ça, ce n'est pas des paroles verbales. C'est-à-dire quand vous faites des sondages avec les mêmes questions dans tous les pays de l'Union européenne ou dans tous les pays développés, le niveau de la défiance en France est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. C'est une chose tout à fait frappante vis-à-vis des institutions, du gouvernement. À l'heure actuelle, si vous regardez, vous posiez la question de la crise sanitaire tout à l'heure, la population française fait moins confiance à ses gouvernants que toutes les autres, alors que quand on regarde les chiffres, il n'y a pas de choses spectaculaires qui nous différencient des autres, et même plutôt pas, au sens où nous avons beaucoup de pays de l'Union qui ont malheureusement une mortalité plus élevée que celle que nous connaissons, nous. Et donc, la défiance est très profonde. Lutter contre cette défiance est très important. Mettre sur la table des évaluations qui sont robustes, qui inspirent la confiance et qui sont utilisées, c'est absolument fondamental, particulièrement dans une période comme celle d'aujourd'hui.
Dans les leviers, là, vous l'avez évoqué rapidement, il y a la place des chercheurs. Quelle est la place que peut avoir le chercheur dans les évaluations, et notamment à France Stratégie, comme
Alors, c'est de plus en plus important. Alors, d'abord, nous avons chez nous des gens qui ont des formations universitaires très solides et qui pourraient faire de la recherche ou qui font de l'évaluation chez nous après avoir fait de la recherche. Mais surtout, dans beaucoup d'évaluations, une fois qu'on a défini, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, qui est très important, les questions exactes qu'on va essayer de poser et de résoudre, on fait très souvent appel à des équipes universitaires, le plus souvent en utilisant la méthode de l'appel à projet de recherche et en publiant cet appel à projet de recherche et en auditionnant avec les membres du comité d'évaluation, parce qu'il y a toujours un comité d'évaluation, ce n'est pas une personne seule qui fait une évaluation, les différentes équipes. Et on choisit quelques équipes pour nous accompagner sur des pans particuliers de la réflexion. Et donc, nous vivons dans une très grande proximité de laboratoires qui ont eux-mêmes leurs propres préoccupations. Parce que pour un laboratoire de recherche, travailler pour un donneur d'ordre public comme nous, c'est très intéressant, mais ça doit rentrer dans sa politique scientifique. Ça doit conduire à des publications qui vont dans des revues à comité de lecture. Et ça, nous le savons. Et ça conduit à des disciplines très fortes. Par exemple, tout ce que nous commandons est public et sera publié. Donc, les travaux que nous remettent les équipes sélectionnées dans les appels à projets de recherche, nous les publions intégralement. Ce qui fait que quand vous allez sur le site de France Stratégie et que vous cherchez des évaluations sur des sujets compliqués, difficiles, controversés, comme le CICE, vous allez trouver l'avis du comité d'évaluation du CICE, mais vous allez aussi trouver ce que chacun des laboratoires impliqués aura publié sur le sujet.
Et au niveau de la gouvernance de France Stratégie, est-ce qu'il a été question à un moment d'ouvrir sa gouvernance aux parlementaires, par exemple, ou peut-être à des universités ?
Nous faisons deux choses. D'abord, nous avons des relations très étroites avec le Parlement, avec toute une série de partenaires extérieurs. Et d'ailleurs, le décret qui définit France Stratégie le prévoit, et nous le faisons. Et depuis maintenant 2 ans, l'Assemblée nationale a demandé au Premier ministre que nous puissions faire pour l'Assemblée nationale un certain nombre de rapports. Nous sommes en train de faire un rapport sur les politiques industrielles qui paraîtra en novembre. Et puis nous travaillons également, nous avons travaillé dans le passé sur les médiations institutionnelles ou sur les conséquences macro de l'immigration. Donc nous avons maintenant une habitude de travail avec l'Assemblée qui est en train de se mettre en place. Et c'était évidemment un point très, très important pour nous et qui tire un peu notre développement. Sachant que les autres sources principales d'évaluation, ce sont des lois qui prévoient l'évaluation et qui sont accompagnées de lettres de mission ou tout simplement des ministres qui prennent l'initiative avec une lettre de mission de nous demander d'évaluer une politique publique.
Et ça, le fait de développer des évaluations pour le compte de l'Assemblée, peut-être du Sénat demain, ouais. Est-ce que ça peut positionner, est-ce que ça peut changer l'image ou de France Stratégie qui n'est pas seulement rattachée à Matignon?
Alors, la question, en fait, se pose un peu différemment dans la pratique. Dans la pratique, ça nous pose comme des gens capables de faire et d'animer des processus d'évaluation très rigoureux. Dans chacun des projets d'évaluation, il y a un comité d'évaluation, quelquefois complètement technique, mais le plus souvent associant des parties prenantes, qui peuvent être des parlementaires, qui peuvent être les partenaires sociaux, qui sont les administrations les plus concernées également. Et c'est ce comité, ce conseil pour chaque évaluation qui va à la fois définir les questions qu'on va traiter, choisir les intervenants universitaires et formuler l'avis final. Et ça, ça crée une situation où, dans le fond, les gens savent que nous faisons les choses sérieusement, que nous sommes très scrupuleux dans la manière de mener tout ce processus. Et c'est plus important dans la légitimité de nos rapports que la question de savoir d'où nous parlons. Et je constate d'ailleurs que quand on fait des rapports, même sur des sujets très chauds, comme la fiscalité du capital, il y a des mises en avant de tel ou tel aspect de notre rapport. Les gens y voient des choses différentes, qui y sont d'ailleurs toutes, puisque c'est un rapport très, très complet. Mais la question n'est pas de savoir qui a fait ce rapport. La question est de savoir s'il a été bien fait, si les chiffres sont crédibles, si nous aurons bientôt les chiffres qui nous manquent pour pouvoir aller au bout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui prennent pas mal de temps, et pas la question de savoir qui nous sommes.
Avec l'essor des évaluations, on a vu beaucoup d'évaluations économiques, statistiques, parfois très macro. Il y a un axe peut-être plus terre-à-terre, si je peux dire, ou plus terrain. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour intégrer la parole des citoyens? Alors, qui sont les bénéficiaires des politiques publiques la plupart?
Alors, c'est absolument fondamental et c'est quelque chose sur quoi, au fond, nous sommes en train d'inventer les choses en marchant. Il y a une partie institutionnelle qui est là depuis assez longtemps avec la présence des partenaires sociaux, mais il y a de nouvelles choses qui se développent et je vais vous en donner une illustration qui vous montrera tout de suite comment on fait. Nous sommes chargés d'évaluer la stratégie de lutte contre la pauvreté. C'est une lettre de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, qui nous a donné cette mission. Il y a un comité qui est présidé par Louis Schweitzer. Et ce comité réunit des gens extrêmement compétents sur le sujet, extrêmement représentatifs des parties de la société qui s'intéressent le plus à ça. Mais nous avons fait 2 choses en plus. Nous avons organisé une conférence citoyenne avec des citoyens tirés au sort, aussi représentatif que possible, pour réfléchir à une question qui est simple en apparence, qui est quelles sont les questions qu'on doit se poser quand on évalue la lutte contre la pauvreté.
C'est en amont de l'évaluation.
Et ça, c'est en amont. On l'a fait très tôt dans le processus et ça a été extrêmement intéressant parce que ça nous a conduit à prendre conscience d'angles d'approche qui n'auraient pas forcément été prioritaires pour nous. On ne les aurait pas forcément ignorés, mais on aurait pu passer à côté parce qu'on n'aurait pas vu leur importance. Et ça, ça nous a beaucoup aidés. Et puis, nous avons fait une démarche additionnelle qui est elle aussi très intéressante. Il y a une instance qui est le CNLE qui s'intéresse à ces sujets-là, qui a un collège de ce qu'on appelle les personnes accompagnées et qui permet de donner la parole à ceux qui sont directement concernés par la lutte contre la pauvreté. Et nous avons écouté ce que les membres de ce collège pouvaient dire. Et ça, c'est assez nouveau dans la manière de faire les choses. Et je pense qu'on ira de plus en plus dans cette direction-là, sachant que ça ne conduit pas à annuler l'importance des chiffres, mais ça conduit à essayer de trouver les chiffres pertinents pour répondre aux bonnes questions. Et ça, c'est d'une très, très grande importance. Et je pense qu'on ne peut plus imaginer de faire des évaluations sur des politiques aussi sensibles que celles-là sans s'interroger profondément. Et là, ce n'est pas du quantifiable, c'est plutôt du social, du politique, du sociétal, quelquefois, sur pourquoi est-ce qu'on fait cette évaluation.
Donc ça, c'est quelque chose que vous allez systématiser ou c'est plutôt adapté, comme vous le disiez,
de plus en plus largement. Alors, quand il s'agit de savoir si les PGE, donc les prêts avec une garantie de l'État mis en place dans le cadre du plan de soutien à l'emploi aux entreprises qui a été mis en place en mars dernier, il faut surtout que les acteurs sachent qu'on a les bons chiffres, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui requiert une consultation citoyenne. Mais à chaque fois que vous êtes sur un sujet qui touche nos concitoyens individuellement, qui met en branle des enjeux de société, il faut trouver le moyen d'entendre. Et entendre, ça commence en posant des questions, mais ça doit continuer en réunissant des gens. Parce que quand vous réunissez des gens et que vous les laissez s'exprimer, vous avez des réponses à des questions que vous n'auriez pas posées. Et ça, on essayait de faire ça.
D'accord. Et pour finir, peut-être vous allez... France Stratégie a été placée, pas placée, mais au service du haut commissaire au plan.
Tout à fait.
Comment vos travaux, votre organisme peut s'articuler avec ceux du haut commissaire
au plan ? Très bien, et c'est en fait très, très facile. D'abord pour nous, vous avez peut-être remarqué que dans le décret qui institue un haut commissaire au plan, nous sommes la seule institution citée. Et c'est un peu une reconnaissance de ce que nous faisons. Et pour nous, ça a été vraiment vécu comme ça. Et c'est une opportunité exceptionnelle pour nous de nous concentrer dans la partie évaluation, dans la partie analyse-proposition sur des choses que François Bayrou a envie de traiter et qu'il a envie de porter dans le débat public. Et ça, c'est un défi extraordinairement intéressant. Nous avons proposé à François Bayrou d'être chef de file des équipes qu'il va faire travailler sur plus de la moitié des sujets qu'il envisage de traiter. Et il en est d'accord. Et donc, ça va être à la fois très important dans notre travail et extrêmement stimulant pour les équipes chez nous.
Très bien. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet éclairage.
Merci beaucoup,
Gilles de Margerie.
Bonne journée et bonne fin de journée.
À très vite sur Acteurs Publics TV.